Chapitre 24. Les rues qui bordent l'autoroute sont encombrées de voitures sales, de bus et de camions. Un flot dense de circulation longe des zones industrielles où l'on vend à bas prix des articles de sport, des meubles et des matériaux de construction. Pendant leur trajet vers Uppsala, Yuna raconte à Eric que le père de Valeria est décédé. Elle n'a pas pu arriver à temps pour l'enterrement, mais elle est désormais sur place pour s'occuper de sa mère. Yuna repense à la petite boîte de chocolat noir en forme de pièce que Valeria lui a offerte avant de partir. Elle le connaît bien. Elle sait qu'il adore le chocolat, mais qu'il a du mal à s'accorder ce genre de plaisir.
« S'il te plaît, mange le chocolat », lui a-t-elle dit en souriant. « Mange-le et pense à moi.
Je pense déjà à toi. »
« Toujours aussi têtu », a-t-elle soupiré.
Yuna s'est promis de manger une pièce en chocolat lorsqu'il aura fait une avancée concrète dans l'enquête. Eric reparle du mariage de cet été, disant combien il l'a trouvé magnifique. Il rit en racontant que Benjamin s'était enivré et avait tenté de flirter avec Lumi.
« Il n'a pas obtenu grand-chose », sourit-il.
Yuna revoit Valeria dans sa fine robe de mariée, blanche et nacrée, une couronne de branches de myrtille tressée dans ses cheveux. Les voix résonnaient dans l'église décorée de feuillage, entre les murs blanchis à la chaux, les voûtes, les pierres runiques encastrées et les autels médiévaux. Des larmes avaient coulé sur ses joues quand il avait senti la main tremblante de Valeria au moment de lui passer l'anneau au doigt. Tous les amis et les membres de la famille s'étaient levés des bancs pendant qu'ils traversaient la nef, accompagnés par la mélodie mélancolique de la marche nuptiale jouée par Bitlas. Il revoit le visage souriant de Lumi, les fils de Valeria et leurs familles respectives, puis le parfum d'une pluie d'été tombant légèrement sur les marches de l'église, tandis que des voiles de brume s'élevaient des champs et des prairies. Yuna remarque qu'il conduit un peu trop vite. À gauche de l'autoroute, la terre s'élève en pente douce jusqu'au sommet d'une longue colline de gravier, vestige des anciens glaciers, où s'étend l'ancienne carrière. Cet endroit est gravé dans la mémoire de Yuna. C'est ici qu'il y a plusieurs années, il a fait un choix qui a assombri son âme. Dès qu'il a vu le corps dévaler la pente tel un cadavre jeté dans la fosse commune, il a su qu'il ne serait plus jamais le même. Yuna n'a rien d'un meurtrier. Mais si la situation l'exige, il sait tuer, sans hésiter. Le lieutenant Rinus Advocat l'a formé à agir par pur réflexe, évaluer, décider et exécuter en un seul mouvement. Ce n'est qu'en passant devant le château de Rosersberg que Yuna desserre enfin sa prise sur le volant. Il passe une main dans ses cheveux, jette un regard à Eric, puis reprend la conversation à propos de leur visite à la clinique du sommeil. Il lui a parlé au téléphone de l'enquête, des meurtres brutaux et du rôle singulier de Hugo Sand. Le somnambulisme, surtout celui qui survient dans la phase de sommeil paradoxal, est un phénomène assez complexe et, comme je te l'ai dit, ce n'est pas vraiment ma spécialité, dit Eric. Je commence à comprendre un peu comment Hugo perçoit les choses, explique Yuna. Il lui reste des bribes d'un cauchemar apocalyptique qui se rejoue chaque fois dans sa maison d'enfance, mais il ne se souvient jamais de la réalité, même s'il a les yeux ouverts. « Parce que le rêve prend le dessus sur tout le reste », acquiesce Eric. « Mais Agnetta m'a dit que Hugo se souvient parfois de certaines choses lorsqu'il est brusquement réveillé d'un épisode de somnambulisme », raconte Yuna.
« Intéressant.
Il a eu une crise chez sa petite amie Olga. Il était sur le point de sauter par-dessus la rambarde du balcon lorsqu'elle l'a réveillé. Il lui a alors parlé du camping. Mais le lendemain, tout était effacé de sa mémoire.
« Et que dit sa petite amie ?» demande Eric en regardant son téléphone.
« On n'arrive pas à la joindre. »
Un éclat frappe soudain le pare-brise et laisse une petite étoile lumineuse dans le verre. Eric envoie un cœur rouge à quelqu'un.
Tout le monde à la NOA est frustré. Dit Yuna en regardant une longue file de taxis emprunter la sortie vers l'aéroport. « J'ai besoin d'un premier indice. On est coincé. »
J'ai entendu dire que les policiers avaient reçu l'interdiction de porter des talons en bois parce que...
« Arrête !» sourit Yuna.
« parce qu'il risque de prendre racine sinon. S'il te plaît, cette blague est tellement éculée, c'est vraiment pas drôle. »
Eric rit puis se cale confortablement dans son siège et Yuna admet qu'il a effectivement l'impression qu'ils sont en train de s'enraciner. Ils ont seulement ouvert le couvercle du puzzle et commencé à retourner les pièces, mais ils n'en ont même pas trouvé deux qui s'emboîtent.
On a lancé des requêtes via Europol et Interpol, mais il ne semble pas y avoir d'autres meurtres à la hache qui pourraient correspondre au schéma, explique Yuna. Qui sait? Peut-être que ce sont les seuls. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Peut-être qu'ils ne sont même pas liés entre eux.
Mais toi, tu crois que si?
On travaille toujours sur le profil des victimes, la comparaison des empreintes de chaussures et les traces de pneus sur les lieux des meurtres. On vérifie aussi si la même voiture apparaît aux environs des deux scènes de crime. Mais c'est une vaste zone avec énormément de caméras de surveillance routière.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Yuna soupire. Nos profileurs pensent qu'on a probablement affaire à un solitaire, avec un comportement antisocial, peut-être un toxicomane. Il vit certainement seul puisqu'il devait être couvert de sang, notamment après le premier meurtre.
Ouais.
Nous comparons avec les personnes récemment libérées de prison ou sorties des centres de soins psychiatriques. Nous passons au crible les registres criminels, les dossiers d'enquête, le fichier des suspects, les archives de l'Institut médico-légal.
Tu vois, c'est classique, mais quand même frustrant.
C'est frustrant parce qu'il y a urgence ? Demande Eric.
Non, répond Yuna à mi-voix.
Non ?
Non.
Je pensais pourtant que tu commençais à envisager un tueur en série.
La probabilité est minime, dit Yuna en baissant la température dans l'habitacle.
Mais tu as une intuition ?
Peut-être bien, oui.
Il s'arrête devant les grilles de la clinique du sommeil. Yuna descend pour s'annoncer à l'interphone, puis regagne le véhicule, tandis que la grille s'ouvre avec une lenteur presque spectrale.
Au fil des années, Eric a été sollicité à plusieurs reprises par les forces de police. Le recours à l'hypnose vise avant tout à aider les témoins dont les souvenirs sont flous ou fragmentés pour diverses raisons. Yuna espère de tout cœur que cela permettra à Hugo Sand de fournir une description du meurtrier.